Couture. Dans le mid.
This is awesome.
Avec Pierre Couture et Frank le détoniseur. Radio X.
Ouais, 10h02, minutes. Bienvenue à Couture dans le mid pour les deux prochaines heures. Très bien tassé. On va avoir encore du gros matériel pour vous en cette rentrée. Semaine de la rentrée à Radio X. Frank, comment ça va?
Ça va très bien, mon Pierre.
Tout est beau?
Oui, tout est beau. Il n'y a rien qui explose encore, on est correct.
La glace est cassée.
Oui, exact.
Ça a été une grosse journée hier pour toi parce que là, la console, tout là, c'est de l'apprentissage aussi. Là. Les gens ne voient pas tout, mais effectivement, il y a quand même du gros boulot.
Non, c'est ça, on n'est pas à Radio-Canada. Là. Y a pas,
Il n'y a pas 8 recherchistes, puis 3 producteurs exécutifs, puis un producteur délégué.
C'est ça. Puis malheureusement, on n'a pas de maquilleuse.
Non.
Ça, c'est...
Non, c'est ça.
Ou maquilleur, il faut être inclusif.
Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc il y a tout ça aussi dans l'équation. Mais quand même, l'actualité bouge, il y a plein d'affaires autour de nous. Et je regardais l'essence hier dans la région de Québec, ça a beaucoup bougé parce qu'on a parlé. Puis dans Limoilou, on a parlé à 1,53 $. Tu vois, l'essencerie, c'est à 18e rue. Et quelques minutes après qu'on parle de ça, paf, ça monte. Et ce matin, genre 1,73 $. Quand même un écart de 20 cents en l'espace de quelques heures.
Ouais. C'est rare, ça swing de même par en bas. Moi, ouais, c'est toujours ça mon point. T'sais, je comprends qu'il y a des variations de prix, mais il y a beaucoup de swings par en haut, un petit peu moins par en bas.
Et ceux que ça intéresse, le 1,61 $, c'est le prix à battre aujourd'hui dans la région de Québec. On est toujours à la même place. C'est Costco qui mène le bal. Tu vois, où ce que c'était chaud, c'était Limoilou. Puis là, ben, ça se refroidit pas mal quand tu regardes un peu les indicateurs qu'on a. Medigaz.com, c'est le site le plus à jour. Vraiment, ça coche, là, ceux qui veulent aller voir.
Tu vas pas sur le site du gouvernement?
Non, hein?
Comment
je vais leur laisser.
Le bidon bleu? Là?
Je sais même pas trop. Écoute, regarde, t'avais déjà un service de privé, puis ils sont allés mettre de l'argent là-dedans.
Ouais, puis Google aussi, Waze, ou peu importe l'app que vous utilisez, oui. Si vous sélectionnez l'option poste d'essence... Vous allez voir les stations-service avec le prix pas mal indiqué. Là.
Je vois Gas
pas
Body, hein? Gas Body.
Gas Body, qu'il y en ait un. Tu peux voir les autres provinces, tout ça. Je sais pas trop quel... Je sais pas trop... peut-être faire un cadeau à quelqu'un, là, mais je vois pas vraiment c'était quoi l'intérêt de mettre de l'argent public là-dedans. Là.
Donc, hier, dans Limoilou, tu avais du 1,53 $, 1,55 $. Puis là, tu es rendu à 1,79 $. Donc, ça a remonté. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est qu'il y a encore de la place au Costco pour vous autres.
Ouais.
Si vous n'avez pas votre carte de... Ben juste avec ta carte, moi, c'est ce que je dis aux gens. Là, juste avec ton essence. Écoute, si tu as 20 cents puis 10 cents de différence à chaque fois que tu fais le plein sur 50 litres, 60 litres, tu as quand même 6$, 7$, 8$ par plein. Si tu en fais un ou deux par semaine, tu as deux voitures à la maison, mettons, c'est quand même 15-20$ par semaine. Ta carte est payée, ça fait
clairement
un bout.
Là. Hier, il y a beaucoup de gens qui textaient aussi... Qui nous écrivait et qui disait, on n'en parle pas beaucoup, mais ce qui est rough pour les gens, en particulier dans la construction, c'est le diesel qui est hors de prix.
Non, ça, c'est fou raide. Et il y a une déconnexion parce qu'il fait un temps où le diesel était moins cher.
Ouais.
Et là, il y a eu comme une espèce de renversement de tendance dans le cas du diesel. Voilà. Red Bull au McDo.
Oui.
Là, McDo Canada dit ben au Québec, comme il y a 16 ans et moins, il y a une nouvelle réglementation. D'ailleurs, le Québec fait bande à part en Amérique du Nord là-dessus. Là.
On sauve des vies.
Ben là, McDo dit ben là, finalement, nos cocktails avec du à base, il y avait un pourcentage. Là. C'était pas 100%. Là. C'était pas un Red Bull qui buvait. Là. C'est certain. Mais tu vois-tu comment entre le Québec et le reste du monde, il y a une déconnexion aussi là, de plus en plus. Je pense qu'on est en train de s'isoler du reste du monde.
Bien, c'est ce qu'on parlait hier avec Gabriel Giguère, notre chroniqueur. C'est que le fait qu'on empile des réglementations une par-dessus l'autre, quand tu les prends toutes isolément, tu dis « Ah ben oui, ça c'était pour ça. Ça c'est pour le français. Ça c'est pour la santé. Ça c'est pour telle autre affaire. C'est pour l'environnement. » Mais ce qu'il faut regarder, c'est le portrait global.
Ouais,
quand
exact.
On empile un paquet de réglementations de même, ça désincite... l'entrepreneuriat, ça désincite l'investissement privé parce qu'au final, il y a des gens qui disent « c'est trop compliqué de faire des affaires chez vous ». Tu sais, la fameuse phrase « open for business », c'est un slogan, mais en même temps, c'est une vraie pensée aussi au sens de dire « open for business », ça veut dire rendre la vie facile. tu commences à dire, tu sais, imagine-toi au McDo, ils ne commenceront pas à carter le monde.
Mais voyons.
Tu t'achètes un trio Big Mac, moi, je prendrais le drink avec du Red Bull dedans. Montre-moi tes cartes d'identité
ben,
au McDo.
C'est-tu la job du caissier chez McDo? Puis souvent, tu peux commander d'avance à ça, tu as des menus. C'est électroniquement, là.
Exact.
Tout est à intelligence artificielle.
Fait qu'ils ont juste jugé que c'était moins compliqué de l'enlever.
Ah, ils ont dit non, laissez faire. Regarde, nous autres, on ne veut pas tomber dans la controverse. On ne veut pas se mettre à dos. Surtout, les élections s'en viennent. Là. On ne veut pas créer de vagues. Donc, oubliez ça là, pour les drinks au McDo. Là, je ne sais pas comment ils vont-tu carter le monde au McDo. C'est peut-être ça qui s'en vient. Mais la malbouffe, tu sais, les affaires à 3000 calories, ça, personne ne parle de ça. Ça, c'est beau, ça passe dans le beurre, ça, tout va bien, il n'y a pas de problème. Fait que, tu vois-tu, on enligne nos sujets, nos politiciens ont fait du mille là-dessus. Là,
ben,
du
c'est village. Beaucoup de la mouche que j'ai remarqué dans les derniers temps, c'est beaucoup de la réaction par rapport à des cas isolés. Il arrive quelqu'un qui se plante avec telle affaire en trottinette, mettons. Ouais, les trottinettes électriques dangereux devraient faire un règlement.
Voilà.
Il arrive un jeune qui a un incident avec. Puis c'est tragique à chaque fois. Bon, on ne souhaite pas de malheur à personne, évidemment. Mais les politiques publiques qu'on se donne au Québec, là, il y a une élection qui s'en vient. On parlera peut-être du sondage un peu plus tard. Mais les politiques publiques ne sont pas à designer basées sur des cas isolés, là. Ça doit être des trucs qui sont faits dans l'intérêt général. De manière générale, est-ce que c'est dans l'intérêt des citoyens qu'on fasse telle ou telle loi? Pas pour faire plaisir à un lobby ou pas pour faire plaisir à des parents qui ont vécu un drame. T'sais, tout le monde, ça les tient à cœur, tout ça, mais c'est pas de même qu'on fait des lois.
Bien, il garde l'exemple des garanties prolongées là, sur les appareils électroniques et notamment sur les électroménagers. Là, on s'aperçoit, puis là, c'est même le groupe BMTC, Tanguay, Bro-Martineau, sont en cours, eux autres, pour faire arrêter cette loi-là. Elle va partir le 5 octobre. Puis, il manque de techniciens. Là, il va y avoir aussi des hausses de prix. Donc, on a regardé juste un an. Hein, t'sais, oui, je comprends, on peut protéger les citoyens sur la durabilité des produits, mais t'sais, encore là...
Ouais, mais les citoyens l'ILO. Font...
Oui, mais
l'ILO font...
Québec, Frank.
Oui.
On est 2 % Le Québec, c'est même pas 1 % de la population mondiale. Puis là, on se dit, on va donner des leçons aux fabricants d'électroménagers, de produits électroniques. Je comprends, là, mais t'sais, l'Europe l'a fait. L'Europe, sont pas mal. C'est quoi? C'est 20 % de la population mondiale. Nous autres, on est là, puis on est tout seul dans notre gang, puis on fait des règlements. On est en train encore de s'isoler là-dessus.
Ben oui, mais tu sais, pourquoi on veut forcer les gens à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas pris autrement? Parce que cette loi-là, c'est ça que ça vient. En gros, ce que ça fait, c'est que ça te force à prendre une garantie prolongée.
T'as pas le choix?
Sans que tu le veuilles. Mais qu'est-ce que ça fait quand tu fais? Parce que quand tu poses la question aux gens, ils s'achètent un iPad, mettons, veux-tu la garantie prolongée? Il y a quoi? Une personne sur deux personnes sur trois qui vont répondre non, c'est correct.
Moi, j'ai jamais pris ça.
Ben, moi, très rare. Peut-être une fois, je me souviens plus. Mais tu sais, il y a des gens qui font le choix de ça parce que t'évalues le risque. Tu dis, bon, ici, il brise, mettons, dans les 3 prochaines années.
T'as une garantie d'un an, là, dans certains pour l'ordinateur. Là, ça va être 3 ans, ça va être 5 ans, donc on va aller au-delà.
Ben oui, mais ils feront pas ça gratuit. Ben oui, c'est ça, mais tout le mythe là-dedans, c'est qu'ils vont te faire ça gratuit.
Non, non.
Tu sais, ce qu'on a voulu, c'est de rendre accessible aux consommateurs des produits relativement abordable puis le plus fiable possible. Mais si vous voulez des produits qui durent extrêmement longtemps, là, mettons, tu veux une paire d'écouteurs qui dure 15 ans, ben là, tu vas t'acheter du Grado, des marques.
Des
que
grosses
peux,
marques qui coûtent 1 000 $, mais
ben
500
oui.
à 2 000. T'sais.
Et si tu achètes des écouteurs à 15 $ au Best Buy ou whatever où tu les achètes, ben ça se peut que dans un an, à force de les plier dans tes poches puis de les ressortir, tu veux-tu forcer les gens à prendre des garanties prolongées pour que finalement l'écouteur qui vaut 15 leur en coûte 25.
Mais la garantie prolongée va être forcée. Là,
ben oui.
Là elle va, c'est parce que les détaillants, en plus, quand ils ont fait des consultations, les parlementaires, l'industrie est allée leur dire. Puis ils ont dit vous autres, on ne vous écoute pas. Écoute, c'était dans le temps des fêtes l'année passée. Les gens de l'industrie étaient pognés, eux autres, ils vendent dans le temps des fêtes. C'est le party pour eux autres. Là. Et ben c'est ça. Les parlementaires n'ont pas écouté. Là, on se ramasse avec ça. Là, on va. Comment on va faire atterrir? Là, tu as des compagnies, notamment des distributeurs puis des détaillants qui sont devant les tribunaux puis qui disent, là, vous êtes allé bien trop vite. Vous n'avez pas regardé le 100 % les angles morts. Là, on va avoir de la problématique, notamment des techniciens. Il manque des techniciens pour réparer les appareils. Fait que là, on va avoir des appareils. Tu vas leur porter ton appareil chez le détaillant puis il va dire, bien, dans un mois et demi, là, ton frigidaire, tu fais quoi avec ça? Là? Tu sais, c'est ça qui va arriver. Là. Donc, on est dans un bordel total, mais ça, encore là... On parlait de Red Bull, mais on est là-dedans aussi. Je dois dire, hier, on a parlé de Ashton.
Oui.
Puis moi, je disais que c'était, dans le fond, une percée pour Ashton dans la région de Montréal. En fait, c'est une percée sur l'île de Montréal, parce que la percée a eu lieu à Mirabel, en banlieue nord de Montréal, mais Ashton va rentrer.
Ouais.
C'est ça, il fallait que je dise là, comme précision, parce que c'est le deuxième Ashton. Moi, je parlais du premier Ashton, c'est le premier Ashton sur l'île de Montréal. Complexe Desjardins, je pense qu'ils ont ouvert un Ashton. Et voilà, c'est fait.
Hier aussi, on a parlé des universités américaines hein, avec des mesures pour lutter contre le stress. On cache les notes aux étudiants. J'ai reçu plusieurs messages de personnes, puis j'ai pas pu vérifier l'authenticité de ça, mais je me fie un peu à ce que disent les auditeurs, que ça existerait aussi dans des universités du Québec.
Université Laval, hein?
Université Laval, on me dit, entre autres, dans certaines facultés, qu'on dit aux gens, ben regarde, vous avez réussi, c'est beau, les notes, on en reparlera plus tard. Hey, c'est spécial, pareil.
Première année, c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent parce qu'ils ont, mettons, toi, tu pensais que tu étais bon, tu sais, puis tu arrives à l'université, puis là, c'est un wake-up call, tu as peut-être pas les bonnes techniques aussi pour présenter ton travail, puis l'étude, puis là, tu arrives, tu fais 62, 63, là, tu sais, hey, my God, je vois. Là, tu pognes une débarque parce que tu t'es fait dire dans ton village que tu étais le kingpin de la place, puis là, tu arrives à l'Université Laval ou à d'autres, puis là, tu dis, hey!
Que tu pognes la débarque à la première session ou à la deuxième, je comprends pas c'est quoi la différence entre les deux. On te protège pour une session, puis rendu après, là, tu apprends que tu pensais que tu étais bien cool, là, mais en fait, tu as eu 62 tout le long.
T'sais. Mais la personne qui t'a écrit, elle disait aussi que même si tu passais pas, il te le disait pas.
Ah non, ça marche pas. Là.
Je veux dire, là, si tu passes pas le cours, je comprends, mais la personne peut être en détresse pas mal plus. Je veux dire, j'imagine qu'après, en bas de 50, il y a un wake-up call. Là.
Ben oui.
Ben
là, il me semble. Là, je veux dire, c'est supposé d'être l'excellence quand même. Là.
Non,
on devrait viser l'excellence pour les universités.
Voilà. Bon, hey, sondage. Ça bouge, les aiguilles bougent vraiment. Mais on revient à ce que je disais depuis avant les fêtes. Là. On s'en va vers un gouvernement minoritaire, Parti québécois. Sondage léger qui a été dévoilé ce matin. Puis là, ben, on voit là, 30 % Parti québécois, 24 % c'est le Parti libéral qui baisse un peu. Milliard pas une grosse été, là. Puis là, ben, on le voit d'en face, là, clairement. Coalition Avenir Québec était à 21, tombe à 20. Du M reste à 13. QS monte. Fait que c'est du monde qui était parqué. Tu sais, on comprend que quoi. C'est du monde qui était parqué au Parti libéral qui s'en vont à QS. Je sais pas trop, là. C'est comme bizarre, ce sondage-là. On a 48 % d'indécis au Québec.
Ouais.
Ça, c'est ça qui est surprenant. Les Québécois, ça pousse qu'ils sont. Là. Je veux dire, bonnet blanc, pas pire. D'après moi, c'est ça. On va voter pour ça. Moi, si je regarde aller les affaires, ça va se décider dans l'urne, à la dernière minute.
Ben, il n'y a pas de partis qui ont une base très solide. Là. Tu vois, les gens qui sont le plus décidés, c'est les électeurs conservateurs et libéraux à 55 %. Ils disent que c'est leur choix définitif.
Ouais.
Mais si on regarde le PQ 52, la CAQ 40, QS 31. T'as juste 3 personnes sur 10 qui répondent voter QS.
Mêlé.
Je vais peut-être changer d'idée. Là.
Et quand tu te demandes aussi, demande aux gens qui votent, ben, qui disent qu'ils vont voter pour le Parti québécois, tu leur demandes êtes-vous souverainiste parce que.
Ouais, ça, c'est le grand paradoxe.
C'est l'article 1 du parti, là. Ils veulent faire l'indépendance du Québec. Puis t'as quoi? C'est 30 ou 40 % des gens qui disent qu'ils vont voter pour le Parti québécois qui sont même pas souverainistes.
Mais t'as-tu vu, il y a un autre sondage à la Sainte-Fédérale qui est sorti hier, je pense c'est par Écosse. Le Québec est la province où les gens trippent le plus sur Carney et les libéraux. Lorsqu'on demande aux Canadiens, là, c'est quoi votre perception de Mark Carney, positif ou négatif, là, ils font le bilan, là, t'sais, fait que là, t'es à plus 12, mettons, si t'es dans le positif. Plus 42 au Québec.
Donc, t'as
de
du monde.
Très loin de. Donc, t'as du monde, en gros, qui vont voter pour le PQ, mais ils trippent sur Carney.
Puis PQ veut séparer le Québec du Canada. Là, tu vois-tu comment les gens sont mêlés? Mais c'est quoi qui se passe? C'est, les gens écoutent des réseaux de télé, puis t'es boomeuse aussi, hein, très, très PQ. Là. Si tu regardes les strates d'âge, là,
ouais.
Le PQ, chez les boomers, fait une razzia. Là. Il y a beaucoup de gens qui se découvrent une fibre nationalistes, peut-être, ils n'ont jamais voté pour le PQ, peut-être de Lévis, par le passé, parce que le PQ, à un moment donné, c'était sur le bord de l'extinction. Là. Ce parti-là a failli.
Mettons qu'on veut être vraiment fin, on peut dire aussi qu'il y a des gens qui attendent de voir ce que les partis vont proposer, parce que pour l'instant, c'est tranquille.
Fait
que
tu es à un chèque près de voter
peut-être un chèque. Mais tu sais, je pense qu'il y a du monde qui ne s'intéresse pas à la politique en dehors de la période d'élection. Là.
Il y a ça aussi. Mais quand tu regardes les enjeux, tu vois, là, santé, services sociaux, ça serait. 48 %. La santé devant le coût de la vie. De la misère avec ça, là. Avec tout ce qui a monté, tout ce que les gens ont à subir comme frais, coûts de toutes sortes, les impôts, les taxes. Vous voyez, le gouvernement vient nous chercher d'une manière ou d'une autre partout. Ouais. Là, ça serait santé, services sociaux. Là, c'est sûr que si dans le sondage, tu poses la question, Puis en premier, tu mets service sociaux, tu sais qu'il y a un biais. Hein, et ça se peut que de la manière dont Léger pose la question, que ça soit santé,
mais
service sociaux.
C'est peut-être le reflet aussi d'une population vieillissante.
Ben oui, non, c'est sûr, c'est clair. Mais encore là, tu sais, je veux dire, service à coût de la vie. Là, tu es proche d'un chèque. J'imagine, le coût de la vie, on va donner un chèque. La CAQ, la dernière fois, c'était 500$. Fait que ça va venir. Là. Ça, éventuellement, ça va venir. Là.
Ben, ils ont déjà commencé pas mal à annoncer toutes sortes d'affaires. Là.
Logement abordable. Tu vois, là, santé, services sociaux, 48% des enjeux pour les votes, les gens qui vont aller voter. Coût de la vie, pouvoir d'achat, 42%. Logement abordable, 28%. Économie, emploi, 23%. Fiscalité, gestion, finances publiques, 18%. Éducation. Là, après ça, là, tu sais... Immigration, intégration, 12%. Environnement, 11% seulement et transition énergétique. Donc, la tenue d'un référendum, 8%. Sécurité publique, justice, 6%.
Hey, l'environnement, on parle quand même de ça très souvent. Puis, j'ai jamais vu un sondage où c'était une priorité pour les gens.
Ben
jamais.
Non, ben non, c'est très loin, là. Donc, tu as des lobbies très puissants, c'est ça que tu me dis?
Ben, il y a des gens qui ont avantage à ce qu'on parle beaucoup de ça, parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Là. Entre autres, les voitures, on parlait hier des voitures électriques, c'est beaucoup ça, là. Mais je veux dire, je suis pas sûr que monsieur, madame, tout le monde pense vraiment qu'ils vont changer quelque chose à ce qui se passe à la Terre en achetant un char électrique.
Là. Donc, nos politicos, là, gardent infrastructure, transport, infrastructure. Puis tu sais, je sais pas si tu as vu aussi, en Mauricie, il y a un gros projet éolien par TEC. Puis Christine Fréchette, hier, a commencé à backtracker. Là. Elle appuyait le projet, mais il y a une grosse opposition là-bas, là-dessus. Fait que là, elle commence à sentir, parce qu'elle se présente dans ce coin-là, elle, Trois-Rivières, là, Mauricie, tout ça.
Oui, parce qu'elle a changé depuis le départ de Jean Boulet. Ouais.
Elle commence à backtracker, là, elle commence à reculer. Elle dit qu'il n'y a pas d'acceptation sociale, d'acceptabilité sociale. D'ailleurs, le tramway à Québec, c'est drôle pareil, hein, ils rentrent eux autres dans le projet. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, vous l'avez vu, là. C'est quoi, 30, 32% d'acceptabilité, le tramway, même 35%. Puis quand tu dis que ça va être 10 milliards en montant, là, ça drop, là.
Mais l'acceptabilité sociale, dans leur tête, ça veut dire acceptabilité médiatique.
Oui, mais je comprends, mais ils nous parlent d'environnement, puis l'environnement est en bas complètement de la liste. Le monde, ils veulent le coût de la vie, puis santé, services sociaux. Je veux dire, mettre de l'argent dans les hôpitaux, puis baisse le coût de la vie, baisse les taxes et les impôts des gens. C'est un peu ça, là, que le monde leur dit.
C'est un peu ça, oui.
Mais les autres, ils disent, non, nous autres, on va vous en fournir des projets d'infrastructure qui vont coûter une beurrée, puis qui vont hypothéquer pour les prochaines années les finances publiques, parce que c'est ça aussi, là. Tu sais, c'est la capacité de payer de l'État dans les prochaines années sur un tramway 15 milliards, 17 milliards, parce qu'ils vont essayer de nous le couler là, tranquillement par étapes. Mais ça va être ça que ça va coûter, puis la facture va arriver à un moment donné, ces comptes.
Bien, on le voit, je ne sais pas si tu as vu avec le Stade olympique, ils ont encore annoncé récemment qu'ils mettaient de l'argent dedans. C'est parce que là, dans un premier temps, on annonce le toit. Après ça, on annonce l'anneau technique, puis après ça, il y a une autre affaire. Puis ouais, bon, faudrait qu'on modernise. C'était là, maintenant, tu te dis, ouais, ça va être beau. Là.
Exactement, puis tu sais, tu regardais ça, puis ce matin, il y avait un débat. Puis hier, on a parlé avec Max Trouman, notre... gars de sport, puis lui, il disait qu'à Montréal, actuellement, le débat, parce que là, les infrastructures publiques, on veut construire le stade de tennis, on parle de 400 millions du côté de Montréal. Ici, à Québec, j'entendais ce matin, Montréal avec Ray, parlait d'un stade de la CFL. Comment il pourrait être financé? Puis là, on va se calmer. CFL, premièrement, il n'y a pas d'équipe qui a été donnée à Québec encore. Là. Je comprends qu'il y a des promoteurs qui poussent en dessous puis sont en train de travailler pour amener une équipe. Mais moi, je pense que s'il y a une équipe de la CFL à Québec ou encore des infrastructures comme ça, hier, Max Trouman nous disait qu'éventuellement, la taxe sur l'hébergement qu'on paye pour quand vous venez à Québec ou les touristes américains ou étrangers qui arrivent avec leur argent puis qui viennent dépenser ça ici à Québec, bien, on parlait de peut-être monter la taxe sur l'hébergement un petit peu. Puis ça ferait en sorte qu'on pourrait financer nos infrastructures. Je trouvais ça l'idée intéressante. À Québec, on pourrait faire ça aussi, là. Tu sais, la taxe sur l'hébergement, les hôtels, il y a des touristes qui viennent, quoi. On dit quoi, 4 millions, 5 millions de touristes à Québec par année, à peu près? Si on est capable d'aller chercher un montant sur leur chambre d'hôtel, puis par la suite, bien, on met ça pour nos infrastructures, je pense que ça pourrait être pas pire. On fait profiter de les gens de la grande région de Québec de ces retombées économiques-là, parce que je sais qu'il y a une partie qui va pour financer des campagnes de publicité à l'étranger, mais pour nos infrastructures publiques, moi, je ne serais pas défavorable à ça, là, qu'on finance, mettons, un nouveau stade à Québec de la CFL par une partie du stade, en tout le moins, par la taxe sur l'hébergement qu'on montrerait un peu, parce que si tu regardes ailleurs, quand tu vas aux États-Unis, les taxes sur l'hébergement, il y en a, là, c'est les chambres là, à 300$ là, US. Là. Donc, ça pourrait être une bonne idée, ça, Frank?
Bien, il faudrait voir en même temps c'est quoi aussi les l'imposition que paie au niveau municipal puis au niveau corpo ces établissements-là là, dans l'hébergement. Là. On est-tu en train. Est-ce que ça va être hors filo consommateur, encore une fois?
C'est sûr, ah, ben non, mais là, la taxe, parce que quand tu prends ta chambre à 300$, tu as une taxe sur l'hébergement, un surplus.
Ouais, ouais, okay? Ouais.
Donc, ça serait là qu'on irait, on montrerait le niveau de taxation de la taxe sur l'hébergement. Tu parles avec les hôteliers, là, ils en payent beaucoup de taxes dans la région de Québec. Là. Les gars capotent parce qu'à chaque année, même dans le dernier budget de Bruno Marchand, on est allé chercher des montants supplémentaires sur les chambres d'hôtel pour faire payer des taxes supplémentaires aux hôteliers. Eux autres, ils payent une beurrée.
Ben oui, mais c'est parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que ça coûte encore plus cher.
Ben, c'est sûr que si tu montes la taxe d'hébergement, les chambres d'hôtel vont monter un peu.
Mais ils sont déjà chers quand même.
Oui, mais le touriste, il vient, lui, il va venir. Là, je veux dire, mais en même temps, nous, on va en profiter pour payer nos infrastructures.
C'est vrai.
Quand je vais à Cancun, là, je paye une taxe sur l'environnement. Parce que dans le bit Cancun, ils sont tout en train de faire les égouts.
Ouais,
tout
ouais,
ça.
Ouais.
Mais il y a une taxe clairement pour ça, là. Supplémentaire à l'hôtel, je suis obligé de payer pour ça.
Mais tu sais, on a-tu une assurance que ça va servir à ça?
Ben, c'est ça.
Ça, c'est le problème.
L'argent va-tu se rendre?
Ouais, l'argent va-tu se rendre ou on va aller dans le trou noir?
C'est ça, exactement. Voilà. Hey, notre invité, il est là. Je voulais vous en parler parce que c'est très rare. Hein. On a une compagnie minière québécoise qui s'appelle First Phosphate qui, jeudi, les dirigeants vont sonner la cloche de la bourse Nasdaq. Quand même rare, là. Et pour en parler, on a David Dufour, vice-président de First Phosphate. Monsieur Dufour, comment allez-vous?
Je vais très, très bien. Et vous?
Ben oui, ça va bien, mais écoutez, racontez-nous un peu l'histoire de cette petite compagnie minière-là qui, quand même, jeudi, vous êtes à bourse Nasdaq, vous allez sonner à la cloche?
Oui, on va être à New York jeudi au Nasdaq, qui est la plus grande bourse au monde, hein, quand, il faut le souligner. Bourse virtuelle, mais quand même, qu'on s'en va à New York après 4 ans environ de travail acharné. Là. Nous, on est une compagnie canadienne québécoise qui est cotée à Toronto, présentement à la bourse de Toronto, là, symbole PHOS. On a découvert un des plus grands et des plus purs gisements de roches sédimentaires de phosphate au monde. Tout près de Jonquière, au nord de Jonquière, environ à 30 minutes là, au nord de Jonquière, dans un endroit vraiment facile à exploiter. Et à travers ça, on a développé des relations là, avec l'Europe pour fournir l'ensemble de l'Europe là, en phosphate puis en concentré d'apatite pour les projets européens puis aussi nord-américains de batteries lithium-fer-phosphate.
Donc là, vous nous dites on a un gisement d'identifié. Là, vous êtes en train de lever de l'argent pour se mettre en... Vous n'êtes pas en production encore?
Ben, non, on n'est pas en production. Entre maintenant et le mois de janvier prochain, on va être le projet minier qui va avoir réalisé entre la découverte et la production là, de l'étude d'impact environnemental puis ce qu'on appelle l'ingénierie faisabilité study. Entre le début et la production de ces éléments-là, on va être le projet, selon le ministre canadien des Ressources naturelles, qui va avoir été le plus rapide à franchir ces étapes-là. On a levé à peu près 80 millions de dollars jusqu'à maintenant. Donc, on travaille d'arrache-pied pour ouvrir cette mine-là dans un délai record qui serait en ouverture, on souhaite, là, autour de 2029.
Les batteries, notamment lithium, fer, phosphate, hein, c'est très, très en demande. Les secteurs qui pourraient profiter du phosphate, vous dites vous avez des clients européens, j'imagine canadiens, américains. Les Américains doivent s'intéresser aussi à vos gisements.
Bien, il faut savoir, là, juste avant, là, pour vos auditeurs, la batterie lithium-fer-phosphate, là, ça, c'est la grande ratée là, des dernières années au Québec et au Canada, là, puis dans le monde occidental. Le monde occidental, puis le Québec, on se rappelle Nordvolt,
ben
on
oui,
se rappelle des projets Lion, tout le monde avait accès le développement de la filière des batteries LMC, donc avec du nickel, manganèse, cobalt et compagnie. Donc, malgré les avertissements des experts, les gouvernements sont allés de l'avant pour subventionner des grands projets qu'on connaît pour une technologie qui, on savait, allait être confrontée à la technologie lithium-fer-phosphate que les Chinois, eux autres, ont poussée et ont fait des factories, des usines en quantité industrielle. C'est le résultat, ce que ça a fait, c'est que la batterie lithium-fer-phosphate, elle a pris actuellement, elle a accaparé le marché mondial. Donc, pourquoi les Chinois sont concurrents? Bien, ils sont concurrentiels, c'est parce qu'ils ont des batteries lithium-fer-phosphate qui coûtent souvent jusqu'à la moitié des prix des autres.
Oui, moitié des prix.
Quand même.
Puis, en voulez-vous une bonne? Voulez-vous la meilleure?
Oui, allez-y.
La batterie lithium-fer-phosphate, elle a été inventée où? Au Québec.
C'est pas avec Hydro-Québec, non? C'est pas les gens de...
Ah oui, l'Institut de recherche au Québec qui a inventé ça. On avait la bibitte la plus performante.
En termes de poussée puis de d'impulsion, j'imagine?
Ben, en termes de prix, en termes de recharge, en termes de durée de vie, c'est un peu ce que les gens recherchent, c'est cette batterie-là. Puis tu sais, l'industrie là, de l'électrification, c'est pas juste les voitures, c'est aussi les grids. Dans des containers, on va avoir des 1, 2, 3 mégawatts de puissance qu'on peut emmagasiner. Tu sais, la plupart des pays, comme en Asie, par exemple, au Japon, en Chine, Corée du Sud, même États-Unis maintenant, quand ils mettent une éolienne, ils vont mettre des batteries à côté. Tu sais, la nuit, quand ça tourne, ils laissent pas ça aller, là. Donc, ici, on est habitué avec nos barrages, on est traditionnellement gâtés, là, à cause de l'hydroélectricité. Mais le domaine de la batterie, lithium fer phosphate, c'est un domaine qui est en complète explosion présentement. C'est le marché mondial est hallucinant en termes de croissance. Et nous, on a la chance d'avoir un phosphate qu'on appelle... Il y a deux phosphates sur la planète, la roche ignée, donc volcanique,
ouais,
puis la roche sédimentaire. Sédimentaire, c'est le Maroc, c'est la Floride, c'est la Tunisie, la Chine. Quand tu transformes la roche sédimentaire, c'est hyper polluant. Puis ça fait des résidus radioactifs. C'est pas chic. La roche ignée qu'on a, nous autres, au Québec, donc dans l'est du Québec, précisément au Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand tu transformes, ben là, tu as vraiment une immense pureté. La star, c'est la roche, nous autres. Donc, cette transformation-là, ça peut amener là, à de l'acide phosphorique de très haute pureté qui rentre dans la fabrication des batteries, des lithium fer phosphate, mais qui rentre aussi dans tout ce qui est donc supraconducteur, tout ce qui est haute technologie, tout ce qui est processeur. Donc, on a en main tout. On doit être un des seuls pays au monde, le Québec, qui a en main tout ce qu'il faut pour faire une batterie qui est 100% québécoise.
Et pourtant là, quand on regarde un peu les avancées, il y avait eu le plan Nord, tout ça avait foiré. Là, le gouvernement du Québec vous donne de l'argent. Le gouvernement quoi, d'Ottawa, surtout, hein?
Non, nous, on n'a jamais reçu un sou de Québec.
Ben,
on
voilà.
est vraiment pas là-dedans. Nous, on est avec... Nous, le gouvernement du Canada nous a beaucoup aidés. Donc, en février dernier, ils nous ont donné une subvention de 16,7 millions de dollars pour avancer plus vite, en disant qu'on était un fleuron canadien. En avril dernier, ils ont inscrit le Canada, le phosphate, sur la liste des minéraux critiques et stratégiques qu'on appelle de catégorie A, donc les plus précieux. Ensuite, en juin dernier, ils nous ont invités à aller faire une représentation G7 sur la table des minéraux critiques et stratégiques. Ça, c'est moi qui étais là. J'étais assis avec une centaine de personnes sur la planète là, pour discuter des minéraux critiques et stratégiques. Puis le constat, c'est le phosphate ici. C'est ce qu'on a. On est assis sur une mine de phosphate, mais on est assis sur vraiment un potentiel hallucinant. Et puis là, il y a environ une semaine, le gouvernement fédéral nous a donné une subvention de environ 6 millions. Là. Mais ce que ça fait surtout, c'est la confiance canadienne, puis le drapeau canadien. Quand on va à l'étranger, on parle à nos acheteurs, on parle à nos financiers. Ça réconforte tout le monde d'avoir un drapeau canadien en arrière de nous autres, qu'on aime, qu'on n'aime pas.
Vous avez dit que le gouvernement du Québec avait été pas mal discret. Vous n'avez pas reçu d'aide. Avez-vous eu des contacts, des pourparlers? Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi qu'eux choisissaient plutôt l'autre technologie ou quelque chose que vous nous avez expliqué comme étant plus obsolète? Là?
Ben, écoute, à l'époque, ça fait un bon bout de temps, le ministre Fitzgibbon avait fait le choix d'aller vers cette technologie-là. Ouais. Je sais que plusieurs maisons d'enseignement, plusieurs chercheurs canadiens lui avaient envoyé des lettres là, pour expliquer ce qui s'en venait avec la batterie lithium fer phosphate. Mais au niveau canadien, je pense qu'ils comprennent très bien. Au niveau Québec, il faudrait voir avec eux. Là.
Expliquez-moi la game qui se joue entre la Chine, parce qu'il y a beaucoup de terres rares, et ils en profitent beaucoup, là, et les États-Unis, le Canada. Comment les Américains perçoivent votre projet également? Parce que là, si vous allez au Nasdaq, il y a de l'intérêt pour les investisseurs américains pour votre projet, là.
Bien, premièrement, tu vois, on a eu on a beaucoup de traction en Europe présentement.
Okay?
On a un fonds à Copenhague qui nous a confirmé leur intention là, de financer à hauteur d'à peu près 300 millions de dollars notre projet. C'est pas un gros projet dans le monde minier, nous. C'est environ 700 millions. Dans le monde minier, ça paraît gros, c'est des gros chiffres, mais dans le monde minier, c'est relativement petit. Souvent, c'est des immenses projets. Donc, on a déjà beaucoup d'intérêt de la part des financiers européens. Du côté des États-Unis, on a la Ex-Im Bank, qui est une grande banque d'infrastructure américaine, qui nous a aussi émis là, une intention de financement. Donc, des deux côtés, là, on a vraiment une attention qui est particulière. Mais le plus intéressant, c'est du côté du gouvernement Carney, en nous mettant sur la liste A des minéraux critiques et stratégiques, oui. Là, ça ouvre tout le champ du possible dans les agences financières fédérales, dont EDC, Exportation Canada, la Banque d'infrastructure du Canada. Donc, tous ces éléments-là, nous autres, deviennent vraiment accessibles pour nous, ce qui est super intéressant.
Oui, puis l'argent, oui, c'est ça. Là, les capitaux peuvent venir d'un peu partout. Après ça, j'imagine quand le drapeau canadien est sur l'aide apportée à votre entreprise, après ça, bien, ça peut être plus facile de dialoguer pour aller chercher de l'argent, j'imagine aussi.
Tout à fait, absolument. Ça amène là, vraiment, là, ça accélère les discussions, puis ça nous aide beaucoup, beaucoup dans toute la suite là, de l'aspect qui est l'aspect construction. Ensuite, nous, on veut vraiment transformer au Québec aussi, il y a ça aussi. Donc là, on parle d'une mine, mais on parle aussi d'une usine d'acide phosphorique d'haute pureté. Donc tout ça, c'est quand même des phases 2 qu'on veut faire, qu'on veut réaliser. Puis là encore, cette intention-là de transformer, ce que ça permet, c'est là d'avoir une meilleure valeur ajoutée, puis d'avoir une filière complètement intégrée. Puis aussi, le phosphate, n'oubliez pas, c'est l'acide phosphorique, ça rentre dans tout ce qui nous entoure. Là.
Donc, il y a un marché pour ça. Clairement, il y a un marché. Hydro-Québec, eux autres, vont-tu vous plugger? Ils vont-tu vous donner un bloc d'électricité ou bien ça tergiverse encore?
Bien, écoute, à l'étape où on se parle, le ministre Drainville nous a rassurés.
Okay. Okay?
Là, on est rassurés par le ministère de l'Économie. Donc, au niveau de Québec, là, au niveau des mégawatts, nous, on a ce qu'il faut pour continuer à avancer, puis en étant assez sécure en termes de possibilités. Le gouvernement du Québec nous a, on est un des quatre projets retenus au Québec là, pour nous mettre sur leur programme Filon. C'est un programme d'accélération des permis. On sait que les permis environnementaux, là, des fois, c'est
c'est long.
Des limbes spatio-temporelles. Donc, on est vraiment mis sur le fast track là, pour saisir l'occasion d'affaires là, qui se présente à nous autres.
Voilà. Bien, David Dufour, vice-président exécutif First Phosphate, merci beaucoup de vos commentaires, de vos observations. Puis
merci
surtout,
beaucoup.
Bien, jeudi, des Québécois vont sonner la cloche au Nasdaq. Ça ne doit pas arriver très souvent, là.
Il n'y en a pas beaucoup. Dans l'histoire du Québec, il n'y en a pas tant que ça des compagnies. On est hyper fiers. On s'en va là. On est quand même, entre guillemets, des ticus de région. Tu sais, on est du monde qui arrive au Nasdaq à New York avec les grands yeux. Puis on devient un fleuron canadien qui s'en va là-bas. On est pas mal fiers.
Bon, on va
surveiller
ça,
rappelle
ouais.
qu'on est coté en bourse à Toronto. Donc, nous, on a le vent dans les voiles. Donc, vos auditeurs, là, amusez-vous bien.
Merci beaucoup. Et encore, bonne ride à New York, comme on dit.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Bye-bye. Voilà. C'était David Dufour, vice-président exécutif First Phosphate. Petite minière québécoise qui fait son chemin. Et je regarde le titre. Le titre, c'est PHOS. Sur la petite bourse de Toronto, là, mais vous l'avez sur le TSX, il n'y a pas de problème. Et là, je regarde le titre, c'est promené pas mal depuis dans la dernière année. Il était à 50 cents, il a monté à 1,97. Là, il était à 1,80 $. Évidemment, c'est une minière qui est en progression. Là, ils ne sont pas encore en production, il faut faire attention. Là, il n'y a pas de revenus, les autres, ils dépensent. Là. Mais éventuellement, il va y avoir des revenus. Là,
mais
donc,
si j'ai bien compris, on a le gouvernement du Québec qui a choisi encore Beta plutôt que VHS.
Mais c'est incroyable. On avait un plan Nord, puis on avait toutes ces compagnies-là qu'on finançait. Là, ils attendent quoi? Que le Canada mette de l'argent. Les Américains vont peut-être mettre de l'argent aussi.
Mais en fait, un coup que tout le monde va avoir mis le cash, là, ils vont arriver. Ah, il faudrait subventionner ça.
Il n'y a peut-être plus d'argent non plus. Mais tu sais, c'est des minéraux stratégiques. Actuellement, là, dans le monde, là, les Chinois, ils terrorisent tout le monde. Les Chinois ne doivent pas être proches.
La course aux terres rares, c'est un vrai sujet. Là.
Les Chinois sont pas loin. Là. Ils ont des compagnies chinoises aussi qui sont proches aussi au Québec. Tranquillement, les autres, ils avancent aussi. Puis des fois, ils se font bloquer. Là.
Ouais, ils avancent les pions. Là.
Exactement. Fait que voilà, dans le phosphate, une petite compagnie. Je voulais vous en parler. Je trouvais ça très intéressant. Après la pause, le sondage, la politique, Rodolphe Osny débarque.
Couture dans le mid. Radio X.